Ça fait longtemps que je suis là et que je rêve de l'autre côté. Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider à retourner là-bas? Il paraît que pour des gens comme moi, c'est interdit.
Pascal Paradou.
Retourner là-bas, à Téhéran, un pays interdit pour qui a pris le chemin de l'exil, un pays désiré pourtant car il n'y a pas d'exil serein. I Am Deranged est le titre du spectacle de Mina Cavani, actrice ni française ni iranienne, actrice. Bonjour Mina Cavani.
Bonjour.
C'est ce que vous dites dans le spectacle, vous êtes ni française ni iranienne. Cela veut dire que vous êtes étrangère partout ?
Absolument. Et j'aime beaucoup ce choix de phrase que vous avez retenu de spectacle, parce que pour moi, c'est le résumé du spectacle. Je me sens aujourd'hui vraiment ni française, ni iranienne. Quand j'étais en Iran, je me sentais vraiment comme une étrangère. J'avais toujours une espèce de décalage avec la société. Et en France, je n'ai pas besoin de dire que je suis étrangère. Et oui, et puis surtout, au-delà de ça, au-delà de l'origine, de la nationalité et étrangère dans le sens classique du terme, je me sens juste un être, je me sens un artiste en fait. J'ai jamais eu cette sensation d'avoir appartenu à un pays ou à une origine ou à une culture particulière. Je me sens multiculture, je me sens une artiste libre. Voilà.
Vous êtes en exil depuis 11 ans,
oui.
Et l'actualité récente nous rappelle régulièrement la répression qui pèse sur la liberté des femmes en Iran. Mais donc, il y a 11 ans, c'était déjà la même chose, c'était déjà le cas.
Ah oui, de toute façon, mais même j'ai envie de vous dire que moi, quand je vivais en Iran, même si aujourd'hui il y a évidemment énormément d'exécutions et de toujours des prisonniers politiques et tout ça, au moins aujourd'hui il y a ce mouvement de femme vie liberté qui a été créé. Moi, dans mon époque, je me souviens quand j'étais toute petite, les femmes se faisaient frapper parce que juste ils avaient des sandales aux pieds ou parce que voilà. Donc c'était, j'ai cette impression que ça évolue très lentement, mais ça évolue. Mais oui, effectivement, il y a 11 ans. La situation était même pire, je dirais.
Donc ça serait mieux aujourd'hui. Les femmes tentent des choses, et je pense encore récemment à cette chanteuse Parasto Ahmadi qui a été arrêtée pour avoir chanté sans voile dans une vidéo enregistrée sans public, mais diffusée sur les réseaux sociaux.
Voilà, exactement. Il y a 11 ans, on ne pouvait même pas imaginer ça. Ça ne pouvait même pas traverser la tête de personne, de qui que ce soit, de faire un tel geste. Ou même en ce qui me concerne, moi, quand j'ai joué dans le film Red Rose, je n'ai pas été juste attaquée par les presses iraniennes. J'ai eu aussi cette réaction un peu inattendue des Iraniens, des gens normaux. C'était tout neuf. Personne ne pouvait imaginer qu'une jeune Iranienne se dénude dans un film engagé, politique, avec des scènes d'amour. Ça a été vraiment choquant, même déjà à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, un film pareil n'est pas aussi choquant qu'il y a 10 ans. Oui.
Donc en effet, pour vous, l'exil a démarré avec un film qui s'appelle Red Rose, dans lequel il y a une scène où vous êtes dénudée. C'est ce qui a provoqué votre départ et on vous a traité d'actrice pornographique.
Absolument, ouais, ouais.
Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça impliquerait ? C'est pas très grave ?
C'est très étrange. Vraiment, je ne sais pas par quelle force supérieure j'ai été aidée pendant toutes ces années, mais jamais ça m'a submergé toutes ces mots ou ces attaques. C'est comme si je me suis quelque part préparée à tout ça. Là où j'étais touchée, comme je l'avais dit, c'était quand je voyais un peu la réaction des intellectuels qui me jugeaient que parce que j'avais fait ça, tellement ça a choqué. Mais de la part des mollahs et les presses iraniennes, je m'en foutais. Quelque part, j'aurais préféré d'être une actrice pornographique pour les mollas, mais d'être une femme libre.
Mais en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Parce que vous avez anticipé votre départ, et c'est ce que vous racontez dans votre spectacle « I'm deranged », sachant que le film allait sortir. Vous revenez en Iran voir votre famille pendant quelques semaines, quelques mois, alors que vous vivez en France, vous faites des études en France, etc. etc. Vous revenez en Iran en sachant que ça risque d'être la dernière fois. Donc, vous l'avez anticipé, cette censure, cette interdiction de rentrer.
Oui, c'est-à-dire qu'avant que je joue dans ce film, je faisais des allers-retours en Iran. Je passais mes vacances en été là-bas, à Téhéran. Mais quand j'ai joué, à partir du moment où j'ai joué dans ce film, je savais qu'il me faudra faire un dernier voyage. Parce que voilà, je le savais très bien qu'à partir du moment où ce film va sortir, je ne pourrai plus jamais retourner en Iran. Donc, j'ai décidé de faire un dernier voyage en 2013. Donc, je suis allée en Iran et je ne l'ai jamais dit à mes parents, je ne l'ai jamais dit à ma famille ou autour de moi que je ne reviendrai probablement plus jamais pour l'instant. Du coup, j'ai décidé de prendre la caméra de ma sœur et j'ai tout filmé. J'ai vraiment absolument tout filmé et je ne suis plus jamais retournée.
Jamais pour l'instant, non. J'entends les deux mots dans votre phrase. Hypothèse, vous rentrez, il se passe quoi, Mina Cavani?
Vous parlez de la situation de l'Iran ou de ma situation?
Les deux.
Les deux. Alors, en ce qui concerne la situation de l'Iran, moi, pendant toutes ces années, j'ai toujours eu un point de vue assez pessimiste. Je pense que j'ai toujours eu un regard assez noir sur le monde en général. Mais là, étrangement, je ne sais pas pourquoi, avec tout ce qui se passe, par exemple, voilà, cette anecdote de cette chanteuse... J'ai cette impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. J'ai cette impression que la République islamique est en train de... C'est quand même leur dernier souffle et leur dernière respiration. Je le sens, je le vois. En ce qui me concerne, je dois attendre que le régime change. Et ça, je ne peux pas vous dire ce sera quand.
I'm deranged est le titre de votre spectacle où vous nous racontez les déchirements de l'exil que vous avez traduit en dérangé pour le livre que vous publiez qui reprend le texte. Deranged, dérangé, glissement d'une langue à l'autre, on en parle. Mais après avoir découvert un extrait du nouvel et troisième album du groupe Grand Blanc.
Je me suis jeté dans l'inconnu qui passait par là. Comme j'étais l'inconnu pour lui, il s'est jeté en moi. L'un dans l'autre sommes-nous, deux à nous deux sommes-nous. Nous trois si nombreux que ça ne compte plus, ne compte pas. Qui sommes-nous en somme? Et que sommes-nous venus ajouter au nombre, nombre d'or et autres numéros? Que rien ne sonne, rien ni personne, d'être plus que zéro, zéro, zéro. Immense, immense, immensité, immense, immensity. Ciment, ciment, muet. Silence, silence, si, si, tout va si vite, si vite, si vite, on oublie ce qu'on venait chercher ici dans d'immenses, immenses, immensités. Je mange aussi. La nuit s'interpelle par des noms obscurs, des portraits démolis. Désirs font des ordres des plus établis. Et ce n'est que façade quand vient la nuit. Tu t'en remets, tu t'endurcis, immense, immensité. Immense, immensity, ciment, ciment, muet. Silence, silence, si, si, tout va si vite, si vite, si vite, on oublie ce qu'on venait chercher ici dans d'immense, immense, immensité.
Grand blanc sur RFI avec ce titre Immensité, extrait de l'album Allo. Mina Cavani, deux mots sur la musique. Votre spectacle I'm the Range est un seul en scène, mais la musique est très présente du début à la fin, ce qui accentue d'ailleurs un peu un sentiment d'étouffement. Et c'est une composition de Siavash Amini, qui est iranien,
oui,
comme vous, exilé aussi.
Lui, il est interdit de sortir de l'Iran depuis des années. Il habitait à Londres depuis des années. J'ai tout fait pour le trouver. Je l'ai harcelé. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a travaillé de loin avec WhatsApp. Parce que comme le spectacle est en français, que moi, je l'avais écrit en français, un jour, je l'ai fait vraiment une représentation live, personnelle, en persan. Je traduisais comme ça sur le moment. Et je voulais qu'ils comprennent vraiment en détail le spectacle. Et le lendemain, il m'a appelé, mais c'est vraiment un génie, Siavash Amini. Je suis très, très heureuse d'avoir travaillé avec lui. Et comme vous dites, la musique a une place globalement très importante dans mon travail. Et je tenais absolument que les spectateurs ils puissent un peu, comme si, je disais toujours, comme s'ils rentrent dans ma tête, de vivre exactement la même chose que moi, je vivais dans ma tête pendant des moments en solitude. Et Siavash, il a grandement pu réaliser ça.
Il prend des risques en faisant cette musique pour vous ? Parce que la musique, quel est le statut de la musique en Iran ? Elle est interdite ?
Alors, la musique, surtout pour les femmes, chanter, c'est interdit. Donc, les hommes, ils ont moins de problèmes. Moi, je n'ai jamais posé la question à Siavash, qu'est-ce qui s'est passé réellement qu'il ne peut pas sortir de l'Iran ? Et je ne voulais pas me permettre de lui poser cette question sur WhatsApp. Mais en tout cas, je sais que oui, en fait, quand tu fais des concerts underground à Téhéran ou des choses qui sont occidentalisées pour la République islamique, qui ne sont pas vraiment à leur goût, là, on devient blacklisté, quoi. C'est direct.
Alors, vous vivez en France, en exil depuis 11 ans, Mina Cavani, mais vous avez fait avant une partie de vos études ici, puisque vous y aviez été admise au Conservatoire National d'Art Dramatique, et votre français est quasi parfait. D'ailleurs, votre texte est en français, ouais, mais son titre est en anglais, I'm the Range. Ouais. C'est pour revenir à la phrase du début, ni iranienne ni française, changer de langue ?
Absolument, vous avez tout compris. En fait, pour moi, c'était très très important, parce que j'ai toujours adorais cette phrase de la grande poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann qui dit que j'appartiens à aucune langue. Et en fait, je ne voulais pas du tout que le titre, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas que ça soit ni en français, ni en farsi, en persan. Je voulais que ça soit justement dans cette langue qui est internationale, qui appartient à tout le monde et qui est aussi, tous les Iraniens, toute la jeunesse iranienne parle très bien anglais. Et je voulais que ça appartienne à aucun pays dans lequel moi je vivais pendant longtemps. Donc ni la France, ni l'Iran.
Mais votre langue au quotidien, c'est laquelle ? Ça dépend de vos interlocuteurs ?
Je dirais maintenant, je parle beaucoup, je suis entourée des Français, donc je parle français tout le temps, mais avec ma famille, je parle en persan. Donc, comme tous les jours, je parle avec ma famille, donc ma langue de intime avec ma famille, c'est persan. Mais ma langue de l'art, c'est français, réellement français.
Et c'est d'ailleurs en français que le texte est publié,
oui,
avec un autre titre, donc, qui est une forme de traduction, mais qui dit d'autres choses, qui dit « déranger »,
ouais,
avec un trait d'union entre « dé » et « ranger ». Et c'est quand même assez paradoxal pour vous qui n'arrivez pas à faire le lien, ce trait d'union, alors que vous n'arrivez pas à faire le lien entre les deux cultures, les deux villes, les deux langues, c'est assez paradoxal.
Je cherche la voix de ma mère. Je cherche l'odeur de Téhéran. Mes bagages sont toujours fermés. J'aimerais qu'ils gardent l'odeur de Téhéran. Ce silence me tue, mais le bruit d'or m'agace aussi. Je ne connais pas ce bruit. Il est tout neuf pour moi. Je ne veux pas croire que je ne suis plus à Téhéran. Je ne veux pas croire non plus que je suis à Paris. Pourquoi je ne sors pas de ce putain de 23 mètres carrés ? Qu'est-ce qui m'y attache dedans ? Pourquoi maintenant je cherche la ville que j'ai fui toute ma vie et pourquoi maintenant je fuis la ville dont j'ai rêvé toute ma vie ? Je ne suis pas heureuse ici. Mais je n'étais pas heureuse à Téhéran non plus. Peut-être que je suis folle.
Mina Cavani, être dérangé, en français, ça veut dire être un peu fou, un peu folle.
C'est le cas.
C'est le cas. Vous êtes un peu folle ?
Oh, moi, j'ai toujours eu cette impression que j'étais un peu décalée. Ce décalage existait déjà à Téhéran. Hein. Ça ne vient pas forcément de mon exil, ça vient un peu de mon rapport avec le monde, avec les êtres humains, avec mon art. Ouais.
Mais vous parlez même de schizophrénie. À l'époque où vous viviez à Téhéran, une schizophrénie qui s'empare peut-être d'ailleurs de tous les Iraniens et de toutes les Iraniennes, parce qu'il y a une sorte de séparation entre ce qui se vit à l'intérieur de la maison et ce qui se vit quand vous êtes enfant à l'école, mais à l'extérieur.
Absolument. Alors cette schizophrénie, c'est pas quelque chose forcément personnel que je l'ai toujours eu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est le fruit de la République islamique. Je parle notamment des gens autour de moi, de là où moi je viens. On avait vraiment une vie totalement contradictoire. C'est-à-dire qu'on vivait dans les familles qui étaient occidentalisées, qui étaient complètement ouvertes, qui étaient complètement... Et puis on mettait nos pieds dehors, il fallait mentir, il fallait cacher ce qu'on vivait à l'intérieur de la maison, il fallait pas raconter ce qu'on vivait à l'intérieur des maisons. Donc en fait, c'était quand même fou que je passais... Des fois, j'y pense, même maintenant, je me dis, mais je passais mes jours entiers dans les écoles qu'on me racontait les derniers testaments de l'imam Khomeini, les leçons religion sur Coran, sur ce qui allait passer après la mort. Et vraiment, il nous lavait le cerveau. Et puis, je rentrais à la maison. Mon papa, il écoutait Bob Dylan, il écoutait Pink Floyd. Il m'achetait mon premier bikini. Donc, en fait, c'était complètement contradictoire. Et des fois, je me souviens, j'étais complètement... Mon cerveau était presque lavé par ce qu'on me racontait à l'école. Puis mon père, il devenait toujours très fâché. Et il venait à l'école, il se fâchait avec l'école. Et donc, en fait, j'ai commencé... Je pense que j'ai eu une adolescence qui était quand même très dérangée, pour le coup. J'étais très garçon manqué et je me cherchais, quoi.
Téhéran, la seule ville au monde où rien n'était possible et en même temps où tout était possible. Et écrivez-vous. Il y a donc cette schizophrénie, Mina Cavani, mais il y a aussi cette nostalgie. Et je dis bien nostalgie car l'origine du mot dit cela. Le désir douloureux du retour, et c'est diagnostiqué comme une maladie au XVIIe siècle. Vous êtes malade de nostalgie.
Ouais, on peut dire ça. Oui, c'est possible. Je pense que j'ai des couches comme ça, de malade de pays, de nostalgie, comme ça que je... Mais après, ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure, au fur des années, ça change, ça, même la forme change, même la manière qui existe en moi change. Mais c'est vrai que ça m'a changé complètement mon rapport avec le monde. Oui.
Mais qu'est-ce qui vous manque le plus ? Alors, je sais que c'est la question qu'on vous a posée des milliers de fois. Qu'est-ce qui vous manque ? Ça vous irrite ? Mais ce matin, là, matin, aujourd'hui, vous avez eu envie de quoi ? D'embrasser votre mère, de boire un thé particulier, de caresser votre chien, d'entendre le son du muezzin ? Bon, ça, j'imagine qu'un peu moins, et encore que... Le son d'une ville, c'est important.
Je pense que ce qui me manque vraiment, c'est tout d'abord d'être dans la maison de mes parents. Ça, c'est quelque chose qui me déchire énormément parce qu'ils commencent à vieillir aussi et j'ai toujours énormément peur de les perdre. Et je pense que le jour où ils ne seront plus là, je ne pourrai plus jamais remettre mes pieds dans cette maison, même si le régime changera. Et puis, ça me manque de faire la fête avec mes amis à Téhéran. C'est vraiment, ça me manque parce que je ne l'ai plus jamais fêté comme j'ai fêté à Téhéran. Et ça me manque énormément, ouais.
Cette nostalgie, elle est très présente dans le spectacle. Vous le dites continuellement, vous le répétez, elle prend des formes différentes. Mais vous accusez aussi la génération de vos parents d'avoir contribué à l'arrivée des mollahs, ou du moins de n'avoir rien fait pour les empêcher.
Vous aussi, vous êtes parti et vous êtes revenu. Vous aussi, vous avez fait des erreurs. C'est vous qui avez fait la révolution. Vous êtes même allé visiter Khomeini avec maman à Neuf-le-Château, non ? Tu défendais Khomeini, non ? Tu écoutais ses cassettes ? Tu aimais bien son mystère et son soufisme, alors que ton père travaillait pour le Shah d'Iran ? Tu te battais pour qu'il parte, non ? Et aujourd'hui, tu les détestes ? C'est vous qui nous avez ramené la République islamique. C'est vous qui nous avez pourri la vie. C'est votre génération. Même les Français se sont trompés. Ils l'ont accueilli, il a été réfugié chez eux. C'est nous qui subissons ce que vous avez fait. C'est votre génération. On est une génération perdue. Nous brûlons. On a passé notre vie à penser à partir. Et une fois parti, on ne pense qu'à une seule chose, c'est de revenir. Parce qu'on est malheureux. Vous nous avez empoisonnés avec votre culture occidentale. Jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus à respirer l'air de notre propre ville. Vous nous avez parlé de partir dès notre naissance. Vous nous avez même pas laissé découvrir la beauté de ce pays. Découvrir sa beauté. Il est beau, ce pays.
C'est une colère jouée sur le plateau, Mina Cavani, ou vous pensez vraiment cela? Que dit votre père quand vous lui dites ça?
J'ai jamais dit ces mots à mes parents. Jamais. J'ai jamais parlé avec mes parents de... Je pense que mes parents, ils m'ont même un peu rencontré à travers ce spectacle. Quand ils sont venus voir ce spectacle, je pense qu'ils étaient un peu... Ils sont devenus très, très choqués. Ils pouvaient jamais... Parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un très clown et très souriante. Et je fais toujours des blagues. Je pars très difficilement de mon intérieur, de ce que je vis. Donc, c'est toujours en écrivant ou en jouant que je sors tout ce que je vis dans mon intérieur. Donc, pour les gens, ça choque toujours parce qu'ils voient toujours une Mina qui est très joyeuse et qui est rigolote. Et après, dans mon art, je m'exprime toujours autrement et j'ai toujours eu cet immense décalage. Et mes parents, ils n'ont jamais pu imaginer que j'avais cette rage un peu contre eux, parce que c'est vrai qu'ils nous ont habitués. Moi, depuis que j'ai ouvert mes yeux, je me souviens, mes parents, ils étaient en train d'immigrer et on n'a jamais immigré. Ou alors, si on a immigré, on est retourné. En fait, on avait du mal à trouver notre pays. Je pense que même ça, aujourd'hui, toujours ça existe chez moi et chez ma sœur et chez mon frère jumeau. On a du mal à se... Bon, moi, je suis exilée, je suis obligée de rester. Mais ma sœur et mon frère, je vois bien qu'ils ne restent pas trop longtemps dans un pays. Ils bougent tout le temps. Et cette sensation de partir, de toujours partir, de vouloir partir, a fait qu'on n'arrive jamais à s'intégrer vraiment dans un endroit et... dans le lieu dans lequel on est. Donc forcément, ça crée une espèce de décalage et une rage profonde, en tout cas chez moi.
Mais vous vouliez la liberté notamment de fumer et de vivre les cheveux au vent, c'est ce que vous dites. Ouais. Vous l'avez obtenue, cette liberté-là. Vous qui avez porté le voile dès l'âge de 7 ans, ouais. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir.
Bien sûr.
Vous le sentez encore sur vous, ce voile?
Ah oui, oui, oui. Moi, je pense que même, j'ai toujours dit, quand je suis rentrée au conservatoire, c'est là où j'ai découvert que, waouh, mon rapport avec mon corps, c'est tellement différent de rapport qu'une amie française, une amie actrice française a avec son corps. Moi, mais même, je pense que même toujours aujourd'hui, j'ai un rapport avec mon corps qui est très, très particulier, parce qu'on m'a toujours dit de le couvrir, de le censurer. Donc, en fait, t'as toujours cette espèce de cette impression que ton corps, ta féminité, c'est un péché. T'as toujours cette impression que ton corps, il faut le couvrir, il faut pas le montrer, il faut pas le mettre en valeur. Donc je me bats beaucoup contre ça, en fait, aujourd'hui, toujours.
Donc toujours prisonnière de cette éducation, d'une certaine façon, de cette manière de penser le rapport au monde et au corps, et prisonnière, dites-vous, de votre statut de réfugié politique?
Alors aujourd'hui, j'ai obtenu heureusement ma nationalité française, mais quand je garde toujours cette réfugié politique, parce que voilà, comme la phrase que je l'ai écrite dans le spectacle, je dis je suis venue ici pour faire de l'art et je suis devenue prisonnière de mon statut de réfugié politique, alors que je ne fais pas de la politique, je hais la politique, je ne la connais même pas. C'est tellement vrai parce que moi, je déteste la politique. Moi, vraiment, profondément, je déteste la politique. La politique m'a pourri la vie. Et ce que je cherchais profondément, c'était de faire mon art librement. Et après, j'attendais pas du tout de me retrouver dans un tourbillon, dans une espèce de cercle qui est un peu, voilà, un statut tellement politisé, tellement... je suis tellement prisonnière, mais même aujourd'hui, on me reconnaît comme une artiste encore exilée. Et aujourd'hui, il faut que je me bats pour sortir de ce statut d'artiste exilée. Je dis juste, je suis une artiste, c'est tout.
C'est pour dire ça et c'est pour comprendre tous ces paradoxes que vous avez écrits, que l'actrice est devenue autrice.
C'est possible, parce que... Mais vous savez, j'ai jamais cherché d'avoir de... Je cherche jamais des statuts. Je me reconnais pas comme une autrice, je me reconnais pas comme une metteur en scène. En fait, tout simplement, je me vide des choses qui existent en moi. Et ça se trouve que ce... Je sais pas si ça existe, ce mot, ce vidage. Je sais pas si ça existe.
Pas vraiment.
J'invente. Et ça se trouve que c'est... Voilà, cette sensation de vouloir se vider, ça passe à travers l'écriture et ça passe à travers... mais même de vouloir créer des performances.
Les mots sont forts, violents et en effet incroyablement intimes.
En rêvant d'atteindre la liberté, j'ai perdu ma liberté. En cherchant le bonheur, j'ai perdu tout mon vrai bonheur. Je ne suis pas restée. Je n'ai pas résisté. Je me suis laissée changer. Je vivais à Téhéran avec mes rêves et je vis à Paris avec mes souvenirs. Entre le monde et moi, il y a un brouillard qui m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Entre ce que je vivais dans le passé et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, il y a des milliers de kilomètres de distance. J'ai coupé tous les liens avec moi-même. Plus rien aujourd'hui ne me rattache à moi-même. Aujourd'hui, je n'ai plus d'âme. Je me la suis vendue à moi-même. Ma patrie, ma famille, mes amours, je les ai tous vendus à mes rêves. Je suis moi-même inversée.
Peut-on dire, écrire plus intime, Mina Cavani, je suis inversée?
Oui, je pense que quand j'ai écrit ça, c'est parce que j'imaginais beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Je rêvais beaucoup d'autres choses pour moi. Et je me suis retrouvée quelqu'un d'autre. En fait, petit à petit, je me suis vue que je suis en train d'inverser parce que toute ma vie, toute mon adolescence, je rêvais d'aller en France, je rêvais d'aller à Paris, je rêvais de vivre cette liberté. Et je me retrouve à Paris, que je rêve de retourner en Iran. Donc en fait...
Mais est-ce qu'on peut se réinventer dans l'exil quand même? Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, d'artistes qui disent que c'est possible.
Bien sûr, comme
Mahmoud
Darwish.
Parfois, il y a une chance même de l'exil.
Absolument.
Parce que ça permet de se décaler, de se décentrer.
Absolument. C'est pour ça que je suis très inspirée par des artistes, comme notamment Mahmoud Darwish, qui a beaucoup parlé de l'exil. Je pense que ce qui est incroyable, c'est que, évidemment, ça transforme, évidemment, ça nous coupe des choses, mais ça crée des choses aussi qui sont très inattendues. Et moi, je pense que je ne serais jamais devenue, modestement, la femme que je suis devenue aujourd'hui sans avoir parcouru ce chemin, je suis sûre. Parce que voilà, aujourd'hui, je suis une femme que je pense que ce qui est le plus fort pour moi, c'est que même si je reviens dans le temps, encore j'aurais fait ce chemin, encore je deviens une femme exilée. Parce que je préfère cette femme exilée, libre, que cette femme prisonnière en Iran qui n'a pas obtenu ses rêves. Voilà.
Je rêve, je danse et je ris. Ce sont les derniers mots du spectacle. Est-ce que cette phrase est celle d'un rêve ?
En tout cas, j'essaie.
De votre présent.
En tout cas, j'avais envie, sans terminer dans une happy end, en fait, pour moi, c'était très important et c'est incroyable parce que des années plus tard, la jeunesse iranienne a montré ça, parce que la jeunesse iranienne est aussi remplie de l'énergie, de la force et de l'espoir. Et malgré toutes ces mélancolies et cette nostalgie dont on en a parlé, je tenais absolument à terminer avec une sorte d'énergie. Je voulais que les spectateurs quittent la salle avec l'espoir, même si c'est très très noir, mais avec l'espoir.
Il faut toujours rêver, car la dictature n'existe pas dans les rêves, dites-vous. En effet, si elle existe, c'est que ce sont des cauchemars. Merci Mina Cavani.
Merci.
I Am Deranged se joue au Théâtre de l'Athénée du 22 au 25 janvier dans la Grande Salle, avant des dates en province jusqu'en mai. Je crois que vous allez même jusqu'en 2026. Quant au texte, il est publié aux éditions du Faubourg sous le titre « Dérangé, l'exil au bord des lèvres ». De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Merci et bonne fin de semaine.
Merci.